Minutes Selon, Caroline Eliachef.
Bonjour Caroline.
Bonjour Guillaume.
Alors vous aussi, vous voulez nous parler d'inversion de courbe?
Eh bien oui, vous savez qu'on attend impatiemment l'inversion de certaines courbes, je ne vais pas vous faire de dessin, alors que d'autres se sont inversées silencieusement. Et celle de l'hypergamie féminine en est une. Au fait, vous savez ce que c'est l'hypergamie féminine?
Je ne sais pas, l'addiction féminine aux jeux vidéo.
Vous allez voir. En fait, il s'agit... Moi, j'ai appris ce que c'était la semaine dernière, donc pas de problème. Il s'agit de la propension à former des couples où la femme se trouve en infériorité selon plusieurs critères, âge, taille, diplôme et profession. L'étude issue des statistiques de l'INED de Milan Bouchevala porte sur l'hypergamie de diplôme lors de la première mise en couple. Avant-guerre, pour les femmes nées en 1920, 50% des couples avaient la même catégorie de diplôme. Dans 30% des couples, l'homme était plus diplômé que la femme, tandis que la femme était plus diplômée que l'homme dans 20% des couples. Ce qui avait pour effet que les femmes les plus diplômées et les hommes les moins diplômés étaient exclus du marché conjugal.
Bon, ben là, on peut imaginer que l'augmentation du niveau d'éducation des femmes, leur entrée massive sur le marché du travail, la contraception, la fin de la tutelle du mari sur la femme ont eu des effets sur cette hypergamie féminine, Caroline.
Alors la transformation commence dès les années 40. Non seulement le niveau d'éducation des femmes s'élève, mais les femmes deviennent globalement plus diplômées que les hommes. Et du coup, les positions relatives des hommes et des femmes se sont radicalement transformées pour les femmes nées à partir de 1960. En fait, la bascule se fait pour celles qui sont nées dans les années 70. Les couples où la femme possède un diplôme supérieur à celui de l'homme deviennent aussi fréquents que les couples à niveau égal, 40% chacun, et les couples où la femme a un niveau inférieur ne sont plus que 20%. La tendance va encore s'accentuer aux générations suivantes, au point que l'hypogamie féminine est devenue la situation la plus fréquente. L'hypergamie comme norme n'a donc pas résisté à l'évolution des diplômes chez les femmes, mais les démographes ont été surpris par le fait que le comportement des individus a amplifié les contraintes que la structure sociale faisait peser sur eux.
Expliquez-nous ça.
Alors, le nombre de femmes diplômées augmentant, le développement des couples où la femme est plus diplômée était démographiquement inévitable. Mais ce qui n'était pas prévu, c'est qu'elle entraîne une évolution de la préférence des individus et un changement des normes sociales. Est-ce à dire que les normes évoluent en fonction de la réalité des faits, plus facilement qu'on ne l'aurait cru ? Et que la domination masculine, sans appui sur une situation concrète, ne peut conserver son sens et sa prégnance. En tout cas, dans tous les pays où les femmes ont accès au diplôme, l'hypergamie a perdu du terrain.
Et les femmes diplômées ne sont donc plus vouées au célibat.
Dès 2007, Maria Winkler-Dvorak et Laurent Toulmont avaient mis en évidence l'augmentation des chances de mise en couple des femmes diplômées. De plus en plus nombreuses, elles font de moins en moins peur. Un diplôme élevé ne signifie plus un désintérêt supposé pour la vie familiale, un manque de féminité, et l'indépendance financière est moins une menace qu'un avantage quand la carrière des hommes se fragilise du fait du chômage. Surtout en France, d'ailleurs, où les carrières féminines sont meilleures que dans nombre de pays occidentaux, même si elles n'égalent pas celles des hommes. Seuls les non-diplômés, hommes et femmes confondus, se distinguent par un taux de vie en couple faible. Autre fait marquant. Pour les hommes, on note l'apparition et le développement d'une hiérarchie entre diplômes. Les chances de vivre en couple s'élèvent désormais avec le niveau d'éducation, ce qui est l'exact inverse de ce qui prévalait chez les femmes nées avant-guerre. Ça paraît témoigner de la persistance du modèle selon lequel le statut social de l'homme reste plus important que celui de la femme et non une inversion de position entre les hommes et les femmes.
Bah, alors dans ce cas-là, expliquez-nous comment une transformation aussi radicale des normes que les démographes donc révèlent a pu passer relativement inaperçue finalement.
Écoutez, c'est probablement parce que cette transformation n'est pas achevée et c'est pour cette raison qu'elle devrait être actuellement relativisée. Certes, les femmes sont globalement plus diplômées que les hommes, y compris dans leur couple. Mais à niveau d'études égal, elles gagnent en moyenne toujours nettement moins que leur conjoint. Et il est encore difficile pour certains couples d'accepter que la femme gagne davantage d'argent que l'homme. La répartition du travail domestique, elle, n'a pas beaucoup évolué. Seule l'activité professionnelle semble produire de l'effet lorsque les revenus de la femme sont assez élevés. Mais les études les plus récentes montrent la probabilité que la femme devienne la principale contributrice aux revenus du couple, ce qui produira peut-être des effets plus visibles sur la répartition des rôles. Je ne sais pas s'il est souhaitable d'en arriver là, mais ce sont les hommes non diplômés dont on devrait s'occuper au niveau de leur insertion professionnelle et conjugale.
Bon, on ne sait pas s'il y a des diplômes qui permettent de se mettre plus facilement en couple que d'autres. Voilà, c'est une prochaine étude qu'il va falloir faire. Est-ce que les ingénieurs, par exemple, se casent plus ou moins facilement que les littéraires ? 7h22 sur France Culture.